Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute des RFI, en direct de Paris, il est 18h.
Le journal, en français facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le mardi 6 mai. L'Allemagne est à la une de cette édition. Les députés allemands ont finalement élu, il y a 2 heures, leur chancelier, l'équivalent de chef du gouvernement. Il s'appelle Friedrich Merz. Dans l'actualité aussi, le Yémen, ce pays du Moyen-Orient, situé au sud de l'Arabie Saoudite, a été bombardé par l'armée israélienne, tuant au moins 3 personnes selon les Houthis. Dans ce journal, nous nous intéresserons par ailleurs à la venue demain à Paris du président syrien. Et puis enfin, nous parlerons de football européen, pour une place en finale de la Ligue des Champions, Inter Milan FC Barcelone, avec un gros plan dans ce journal sur la pépite barcelonaise, Lamine Yamal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Il aura donc fallu 2 tours, ce qui n'était pas du tout prévu pour que Friedrich Merz devienne chancelier allemand. Le conservateur, âgé de 69 ans, a finalement été élu chef de gouvernement au 2e tour par les députés allemands. Ce matin, coup de tonnerre lorsque les députés allemands ne lui ont pas permis de l'emporter dès le 1er tour. Après le choc de son échec, ce qui n'était pas arrivé en Allemagne depuis bien longtemps, Friedrich Merz succède ainsi à Olaf Scholz avec 325 voix sur un total de 630 députés. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
C'est donc à la 2e tentative que Friedrich Merz a finalement obtenu la majorité absolue.
Oui, soulagement visible d'ailleurs pour Friedrich Merz. À l'annonce de ses résultats, le nouveau chancelier allemand obtient 9 voix de plus que nécessaire pour obtenir l'accord du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. « J'accepte la nomination », s'est-il alors contenté de déclarer de façon protocolaire, mais avec le sourire et sous les applaudissements de sa majorité. La grande coalition CDU-SPD, qui avait connu un immense raté ce matin en échouant donc à élire Friedrich Merz dès le 1er tour, un camouflet inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Dans les heures qui ont suivi, c'est vraiment la confusion qui a dominé, avec des informations contradictoires qui ont circulé. Finalement, la CDU et le SPD ont convaincu 2 autres formations politiques d'accepter un vote dans le courant de l'après-midi. Il a ensuite suffi de quelques heures pour ramener la discipline dans les rangs de la grande coalition. Mais c'est un chancelier qui ressort très affaibli de cette journée et de ce qui peut être considéré malgré tout comme un camouflet, une entrée en matière qui témoigne de la fragilité de la coalition censée le soutenir.
Daniel Valo, dans votre journal en français facile, toujours dans l'actualité européenne. Un chef de gouvernement élu en Allemagne, un autre chef de gouvernement a démissionné hier. C'est en Roumanie. C'est l'une des conséquences du résultat du 1er tour de l'élection présidentielle. Le candidat d'extrême droite, Georges Simion, est arrivé en tête dimanche soir avec plus de 40% des voix. Il se retrouve en position extrêmement favorable pour le 2nd tour prévu le 18 mai prochain. La démission du Premier ministre roumain plonge ainsi le pays dans l'incertitude politique. Avec cette nouvelle percée de l'extrême droite en Europe, la réaction des eurodéputés actuellement réunis à Strasbourg. Notre correspondant Jean-Jacques Herry leur a posé la question dans les couloirs du Parlement.
Une bien mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour les Roumains. Voilà comment Christophe Grudler, député européen Renew et membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, accueille les derniers événements de la vie politique roumaine.
Le Premier ministre a bien fait de démissionner. Il a été désavoué par le vote. Monsieur Siméon est un adversaire de l'Europe qui est là pour casser l'Europe. Il soutient les Russes face à l'Ukraine.
Mais il garde espoir.
Les démocrates sont aussi capables de voter massivement pour empêcher cela. J'espère qu'il y aura un électrochoc pour le 2e tour.
Pourtant, Georges Simion semble en ballotage très favorable selon les analystes, à moins d'une hausse de la participation. Et ce matin, par la voix de son coprésident Nicolas Procaccini, le groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens, l'un des 3 groupes d'extrême droite au Parlement, n'hésitait pas à rassurer, dépeignant un candidat européano-compatible à l'image de Giorgia Meloni en Italie.
Cela pourrait être une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Il ne souhaite pas un départ de la Roumanie, de l'UE. Il est en faveur de l'OTAN et il défend la cause ukrainienne.
Pourtant, l'homme a clairement répété durant la campagne sa volonté de mettre fin à l'aide militaire à son voisin ukrainien, fustigeant régulièrement les bureaucrates bruxellois. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
À l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h05. La suite de ce journal au Moyen-Orient, Israël a bombardé dans la journée le Yémen. L'armée israélienne dit avoir frappé l'aéroport de Sanaa, mais aussi une centrale électrique située non loin de la capitale yéménite. Des tirs de missiles en réponse aux attaques des rebelles houthis sur Israël le week-end dernier. Des frappes aujourd'hui, en tout cas, qui ont causé la mort d'au moins 3 personnes, précise les houthis. À la suite du tir de missile houthi dimanche dernier contre l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv, nous apprenons que la compagnie aérienne Air France a décidé de prolonger jusqu'au 13 mai la suspension de ses vols entre Paris et Tel Aviv. Lui sera demain à Paris, ce sera sa première visite en Europe. Le président syrien Ahmed al-Sharré sera reçu au Palais de l'Élysée demain, mercredi. Abla Junaidi, cette visite officielle se déroule dans un contexte de violence et de tension en Syrie.
La semaine dernière, la France a condamné les violences visant la communauté druze de Syrie. Ces violences sectaires, qui visent les membres d'une religion, ont fait plus de 100 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elles sont le fait des forces affiliées, associées au nouveau pouvoir. Le responsable des druzes en a appelé à une intervention internationale, mais c'est Israël qui s'est chargé d'intervenir militairement la semaine dernière. Plus de 20 frappes sur des sites militaires et un tir aux abords du palais présidentiel. Une violation de la souveraineté syrienne condamnée par l'ONU. Les violences contre la communauté druze et avant celle-ci, les massacres visant la minorité alaouite suscitent les inquiétudes des capitales occidentales. Elles illustrent pour de nombreux spécialistes l'incapacité ou l'absence de volonté du pouvoir syrien de contrôler les composantes les plus extrémistes dans ses rangs. Les autorités françaises assurent qu'elles mettront à profit la visite d'Ahmed el-Sharrah, ancien chef du groupe djihadiste le Front al-Nosra, pour exprimer à nouveau ses attentes. La présidence française entend les promesses de Damas de protéger les civils, mais elle attend des actes, notamment pour punir les auteurs de ces exactions, de ces crimes.
Et à l'instant, Emmanuel Macron, le président français, annonce qu'il demandera demain au président syrien que les responsables d'exactions de violence contre les civils soient jugés. Refermons ce journal en parlant de sport. Football, première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Elle débute dans moins de 3 heures. L'Inter Milan reçoit le FC Barcelone. Les deux équipes se sont séparées la semaine dernière sur un match nul. 3 partout. Ce soir, les Catalans partiront légèrement favoris, notamment parce qu'ils peuvent compter sur leur jeune star Lamine Yamal. Lamine Yamal qui n'en finit plus d'éblouir le monde du football par son talent hors norme. Cédric de Oliveira.
À lui seul, il a fait basculer ce premier round face à l'Inter Milan. Son Barça était mené 2-0 et Lamine Yamal s'est alors mis en action. Un slalom puis une frappe dans la lucarne, action déjà mémorable dans la carrière de ce gamin de 17 ans que son entraîneur Hansi Flick veut voir encore progresser.
Je pense qu'il sait ce que j'attends de lui. Quand vous avez ce niveau, vous devez constamment le montrer. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Ce qu'il fait à 17 ans est incroyable, mais il doit aussi travailler dur pour devenir encore plus performant. Ce n'est que le début, je pense. It's not the
end, I think. Pas encore majeur, Yamal a déjà remporté l'Euro avec l'Espagne l'été dernier et il veut plus. Au match aller, le bambin et son appareil dentaire ont terrorisé la défense interiste. À Milan, l'entraîneur Simone Inzaghi sait donc que son équipe va souffrir.
Il est clair que c'est très difficile de stopper Yamal. C'est un grand talent. Il est tellement dangereux pour son âge, dès qu'il a le ballon. Ce qui est le plus impressionnant chez lui, c'est sa rapidité d'esprit. Avant de recevoir le ballon, en un dixième de seconde, il sait déjà ce qu'il doit faire. Il fera bien sûr l'objet d'une surveillance particulière.
Ça ne suffira peut-être pas pour contenir l'Espagnol, déjà le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. S'il est encore décisif face à Milan, il pourra aussi devenir un candidat sérieux au Ballon d'Or.
Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté. RFI à Paris, 18h10.